en exigeant un sourire. Vous pouvez insister de dire que c'est quand même dimanche. Vous pouvez me saluer avec un beau sourire, un sourire de dimanche. Nous bénissons Dieu qui nous donne le privilège d'être là et de nous tenir derrière cette chaire. C'est une grande responsabilité. Nous disons aussi merci à notre pasteur, Joseph Bondo, qui nous a fait confiance, une fois de plus, en nous demandant d'être à cette charge. J'aimerais que nous puissions lire quelques versets. On fera beaucoup de lectures et nous parlerons aujourd'hui sur Joseph, virgule, héros de la foi. Joseph, héros de la foi. Nous lirons Hébreux, chapitre 11, le verset 22. Ce sera notre texte de base qui soutient qu'au milieu de tous ces héros de la foi dont la Bible parle dans Hébreux 11, il y a un homme qui s'appelle Joseph. Hébreux 11, 22, je lis, « C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. » Amen. Nous connaissons tous la vie de Joseph, du moins de manière générale. Nous avons entendu parler, nous avons lu, peut-être même nous prêchons sur Joseph. Joseph, un garçon qui est né dans une famille un peu composée d'une manière spéciale, on aura l'occasion d'en parler. En ce matin, j'aimerais ensemble que nous puissions réfléchir sur ce qu'a été la vie d'un homme, listé parmi les héros de la foi, mais un homme qui a tardé pour recevoir ce qu'il croyait être la volonté de Dieu pour sa vie. Un homme qui est allé à 180 degrés de la direction de ses promesses. Un homme qui est allé à l'opposé du chemin qui était le chemin de sa vie. Et comment est-ce que par la grâce de Dieu, cet homme a pu garder la foi? Alors qu'il a vécu des situations les plus amères, vendu deux fois, pratiquement même trois fois, selon quelques commentateurs, parce qu'à la fois il est vendu par les Ismaélites, après encore par les Madianites. Et cet homme-là, de qui on ne pouvait pas penser quelque chose sortirait, il est entré en Égypte dans la tenue naturelle, pour ne pas dire dans sa nudité, parce que sa belle robe lui avait été enlevée. Cet homme qui entre en Égypte dévêtu, ce sera le roi de l'Égypte. Qui pouvait le penser? Qui pouvait penser que ce jeune homme, qui pleurait certainement sans force, parce que n'ayant pas mangé pendant des jours, maltraité, et surtout au-delà de toutes les douleurs physiques, la douleur de l'âme, mes propres frères m'ont vendu. Joseph. Ça nous permettra de parler aussi des discussions qui se font dans la cour des grands, dans ce qu'on appelle les palais, des injustices qu'il y a dans les palais, de ce que ceux qui sont forts font à ceux qui sont faibles, de ceux qui ont une position pensent de ceux qui n'en ont pas ou n'en ont pas encore, de ceux qui ignorent que la roue de la vie tourne et que celui qui se retrouve aujourd'hui en dessous, on ne sait jamais, demain peut devenir au-dessus. Celui à qui vous enseignez aujourd'hui peut devenir votre enseignant demain. Celui dont vous êtes chef aujourd'hui peut demain régner sur vous. Joseph, une vie remplie d'enseignements. J'aimerais que nous lisions, le temps me manquerait pour lire tous les versets. L'histoire de Joseph commence au chapitre 37 de Genèse et va jusqu'au chapitre 50. Donc, on ne parle que de lui. Vous imaginez comment il était important et quelle pièce maîtresse il a été dans la destinée d'Israël. J'aimerais que nous puissions lire Genèse 37, les 11 premiers versets, et je sauterai pour lire du 18 au 22. Genèse 37, 1 à 11, et puis 18 à 22. Jacob demeura dans le pays des Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bilha et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc le songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et lui aussi. Il raconte. Il dit, j'ai eu encore un autre songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, souligné. Mais son père, un homme qui avait une relation avec Dieu, garda le souvenir de ces choses. Verset 18. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes, le faiseur de rêves qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Rubin entendit cela et il le délivra de leurs mains et dit, ne lui ôtons pas la vie. Rubin leur dit, ne répondez point de sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains, mais pour le faire retourner vers son père. Amen. Triste histoire. C'est une famille polygamique. Et c'est une famille qui s'est composée un peu de manière, on va dire, bizarre. Jacob est allé travailler et il avait aimé une jeune dame, Rachel. C'était sa préférée, mais son père, le père de Rachel, ne voulait pas donner sa fille. Il a préféré donner sa grande sœur, parce qu'il lui a dit, non, dans notre coutume, normalement la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Alors le voilà en train de travailler encore quelques autres années pour avoir sa Rachel. Et une fois qu'ils sont mariés, Rachel ne conçoit pas. Mais c'est plutôt Léa, celle à qui il n'avait pas pensé, qui commence à avoir des enfants. Elle va en avoir 1, 2, 3, 4, 6 garçons et une fille, Dina. Vous savez, dans les milieux polygamiques, il y a toujours une compétition. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous parlons sur ces textes, nous devons insister et dire que la polygamie ne vient pas de Dieu et Dieu n'est pas pour la polygamie. La Bible reprend des histoires pour montrer les faiblesses des gens. La Bible, c'est pas une épopée. L'épopée, c'est un récit dans lequel on ne raconte que des bonnes choses. Non, la Bible nous présente les hommes avec leurs défauts, avec leurs qualités, afin que nous puissions voir leur fin. Avec telle chose, cette personne ne peut pas aller loin. Et c'est ça la famille que Jacob bâtit. Il aime Rachel, mais Rachel n'a pas d'enfant. Alors, Rachel devient tellement jalouse lorsque sa sœur, qui est à la fois sa rivale, vous comprenez que c'est très outrageant, sa propre sœur et sa rivale a 4 enfants, alors elle va prendre sa servante. Elle va demander à sa servante d'aller faire un enfant avec son mari. Bizarre. Mais les commentateurs bibliques disent que c'est des pratiques qui existaient à l'époque, dans les familles qui existaient à ce moment-là. Alors, la servante de Rachel qui s'appelait Bila va faire 2 enfants, Dan et Nephtali. Lorsqu'elle va faire les 2 enfants, la rivale aussi répond à son tour. Alors, moi aussi j'ai une bonne. Elle s'appelle Zilpa. Moi aussi, je veux qu'elle ait des enfants, comme moi, je ne conçois plus. Zilpa, son tour, va donner Gad et Acer. Ouh, Jacob, tu vas avoir une équipe de football. Mais au moment où Zilpa comment finit de mettre au monde, la Bible dit que Dieu va visiter Rachel qui soudain est enceinte et elle va accoucher premièrement de Joseph. Joseph est né. Et puis quelques temps après, elle accouchera de Benjamin et elle mourra durant cet accouchement. Cet enfant pour Léa, deux de chacune des servantes et deux de Rachel. Voilà la famille. Et c'est une famille où les querelles, les oppositions, les combats des mamans vont se transposer dans les enfants. Comme dans toutes les familles où règne la polygamie. Les mamans se détestant, les fils vont aussi se détester. Mais le papa de Joseph, qui est Jacob, va faire quelque chose d'exceptionnel. Il va transposer à son tour l'amour qu'il avait pour Rachel. Il va transposer ça sur son fils aîné, qui était donc Joseph. Il aimait Joseph, parce que Joseph, c'était l'enfant de la femme qu'il avait aimée toute sa vie. Et pour le distinguer, il va lui offrir un habit extraordinaire, une robe. C'est ce que nous avons lu. Il montrait devant tout le monde qu'il aimait. Permettez-moi d'ouvrir rapidement et de fermer la parenthèse. Vous savez, en tant que parents, c'est important d'aimer tous nos enfants et surtout de ne jamais montrer que vous préférez l'un à l'autre. Alléluia. C'est aussi ça le but de lire ces histoires dans la Bible. Il y a des parents qui veulent montrer qu'ils n'aiment que tel enfant ou celui-ci ou celle-là. Ça crée des frustrations. Et c'est ça la famille de Joseph. Une famille où les gens se haïssent au point où ils sont capables d'en vouloir à la vie de leur propre frère. Amen. Joseph, son nom, signifie quelque chose d'extraordinaire. Quand on lit dans Genèse 30, les versets 23 à 24, on dit, lorsque sa mère va tomber enceinte et met au monde, elle dit, Dieu a enlevé ma honte, et elle l'appela Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute à notre fils. La pensée de Rachel lorsqu'elle accouche de Joseph, c'est ça, elle dit, Dieu vient de m'enlever ma honte. Parce que le mot Asaph, d'où vient le nom Joseph, c'est un mot qui a deux significations. À la fois, il signifie enlever, à la fois, il signifie ajouter, en hébreu. Donc, elle donne ce nom-là, prophétiquement, elle donne ce nom-là, à dessein, elle donne ce nom en disant, ma honte, j'ai passé toutes ces années, je n'avais pas eu d'enfant, mon mari en a eu déjà 9. Enfin, j'ai un fils. Dieu vient d'enlever, mais à la fois Dieu vient d'ajouter. Dieu enlève, Dieu ajoute. Et c'est ainsi que va la vie de Joseph. Un homme qui est un homme de grâce. Il est aimé par les parents. Je pense que ses frères l'aimaient aussi, mais quelque part, Joseph avait un comportement étrange parce qu'il rapportait à la maison tout ce qui se disait au champ. Il rapportait à la maison tout ce que les autres faisaient. Bon, je ne sais pas si c'est pour mériter les grâces de son père ou de ses parents, mais je pense que c'est juste parce que c'était un homme correct. Vous pouvez dire amen. Vous avez peur quand quelqu'un rapporte ce que vous dites? Est-ce qu'il est mauvais nécessairement? Non. Ça ne fait pas de lui un méchant. Il disait sans hypocrisie ce qui se passait. Papa, lorsque nous étions allés dans les champs, ils ont fait ceci. Et moi, j'avais dit non. Les théologiens estiment que Joseph est l'une des figures les plus marquantes de l'Ancien Testament qui se rapporte à Jésus. J'ai lu le travail d'un théologien qui a écrit 121 image dans la vie de Joseph qui représente Jésus-Christ. Mot pour mot, dans la vie de Joseph. C'est une image forte. Un homme extraordinaire qui dit la vérité à ses frères, qui va épouser une étrangère. Tout ça, c'est l'image de Jésus. Joseph, l'Éternel enlève, l'Éternel ajoute. Deuxièmement, j'aimerais parler de ses rêves, parce qu'il s'agit des rêves. Lorsque vous lisez la vie de Joseph, ce qui vous frappe, ce sont les rêves. Il fait des rêves. Et si vous aimez bien les études bibliques, vous allez remarquer qu'il y a dans la Genèse qui parle de Joseph, il y a toujours deux rêves. Il y a deux rêves de Joseph, et puis il y a après les deux rêves des chansons et du panetier, et puis encore les deux rêves à la fin du pharaon lui-même. La vie de Joseph, c'est comme si ça tourne autour du rêve. Il rêve. Il a un rêve. Dieu lui a montré par les rêves ce qui sera demain. J'aimerais d'abord poser une question à quelqu'un ce matin. Avez-vous un rêve? Ou mieux, avez-vous toujours un rêve? Quel est l'idéal pour lequel vous vivez? Quelqu'un qui a un rêve, c'est quelqu'un qui a une raison pour laquelle il vit. C'est quelqu'un qui a une raison pour laquelle il existe. Un homme est allé loin jusqu'à dire, celui qui a un rêve, c'est quelqu'un qui a une raison pour laquelle il peut mourir. Si vraiment vous avez un rêve, on doit le sentir. Mais le problème, c'est que dans l'Église, aujourd'hui, nous avons des hommes, des femmes qui n'ont pas de rêve, qui n'ont plus de rêve. Même en matière de foi, ils n'ont plus de rêve. Même en venant à l'Église, c'est un folklore. On vient juste pour venir, mais on s'attend plus à rien. On n'espère rien. On vit pour vivre et on attend la mort. Lorsque nous arrivons à ces niveaux-là, nous sommes vraiment des personnes qui faisons mal au cœur de Dieu. Joseph va avoir un rêve, le premier, dans lequel il voit sa destinée. Dieu lui parle, comme il arrive que Dieu parle par les rêves. Ce n'est pas un don spirituel. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un don de rêve. Mais la Bible dit juste dans la promesse du Saint-Esprit que lorsque l'Esprit de Dieu viendra, vos jeunes gens auront des songes et vous aurez des visions. Point. Il y en a qui ont aussi exagéré, pensant que finalement, tout ce dont on rêve depuis qu'on a donné sa vie à Jésus, forcément c'est vrai. Non, il ne faut pas non plus exagérer. Mais il y a des moments où Dieu parle par des rêves. Alléluia. Proverbe nous dit, Ecclésiaste le soutient, la pression du lait produit la crème et la pression de la pensée produit les rêves. À force de penser à quelque chose, vous pouvez rêver de ça. Ce n'est pas forcément que Dieu vous a montré que c'est tel frère ou telle sœur. Il y en a qui se décident comme ça pour la vie, non, sœur, j'ai rêvé de toi. Ou frère, j'ai rêvé de toi. C'est forcément toi. Il y a des moments, c'est ça. Il y a des moments, c'est pas ça. Je me souviens, alors que je parle, beaucoup d'années passées, une sœur était venue me voir pour me dire qu'elle avait fait un rêve. Elle était en deuil et elle était allée mettre sa natte à côté d'un frère et ce frère-là serrait son mari. Ils ont eu des fiançailles pour 6 mois. Aujourd'hui, chacun est marié de son côté. Et ils sont bien mariés, ils sont heureux. Mais est-ce qu'on doit fonder toute sa vie sur un rêve? Non. Il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut être sûr que ça vient de Dieu. Et deuxièmement, il faut être sûr que ce que vous avez comme message aux révélations de Dieu, il faut le partager. Pour le cas de Joseph, je suis toujours de ceux-là qui n'aiment pas trop condamner le fait que Joseph ait partagé ses rêves. J'ai souvent entendu des prédicateurs dire il ne faut pas toujours parler de ses rêves et on cite l'exemple de Joseph. Je suis d'accord qu'il ne faut pas toujours parler, mais pour le cas de Joseph, c'est exceptionnel parce que Joseph devait créer des problèmes comme ça pour entrer dans sa destinée. Si vous voulez que Joseph ne partage pas ses rêves, Joseph n'ira jamais dans la citerne, Joseph ne sera jamais vendu, Joseph ne sera jamais Joseph. Alors laissons l'histoire de Joseph, s'il vous plaît. Laissons l'histoire de Joseph comme ça. Joseph est un homme qui dit ce qui est dans son cœur. Il est comme un enfant. Vraiment, comme un innocent. Quel innocent! Tu dis la première fois, tu as déjà vu qu'ils étaient fâchés. Et puis tu reviens la deuxième fois avec le même message. Mais là, c'est pire. Avant, c'était que les frères, et cette fois-là, c'est les astres qui représentent Léa, la maman qui est actuellement donc en vie à la maison, et son père Jacob se prosterne. Joseph, tu es fort. C'est très fort. J'aimerais dire deux choses fondamentales par rapport à au rêve et à la promesse de Dieu. Vous savez, Dieu peut vous donner un rêve, Dieu peut vous déposer dans votre cœur une vision pour votre vie qui ne ressemble pas à vos origines, qui ne ressemble pas à d'où vous venez, qui ne ressemble pas aux études que vous avez faites, qui ne ressemble pas à votre parcours professionnel, qui ne ressemble pas à la génération ou aux généalogies de votre famille. Dieu peut vous promettre quelque chose qui ne vous ressemble pas. Je ne sais pas si dans ce lieu, ce matin, il y a des gens qui ont des rêves qui pèsent plus que leur propre vie. Je ne sais pas, il y a des hommes comme ça. Vous-même, quand vous regardez votre vie, vous dites, moi, normalement, je ne peux pas arriver à tel endroit. Dieu fait des choses comme ça. Le Dieu de la Bible, il fait des choses comme ça. Il te promet quelque chose qui ne te ressemble pas. Quand toi-même tu regardes d'où tu viens, tu regardes ton CV, tu dis non, ça peut pas être moi. C'est pour ça en tant que chrétien, enfant de Dieu, nous devons pas avoir le langage qui minimise les gens à cause de leur CV, leur parcours. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter, dit la Bible. C'est aussi ça le message de Joseph. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul fois que celui qui vous a ouvert la porte ce matin, votre gardien, celui qui vous a peut-être conduit, ceux qui travaillent dans nos maisons, est-ce que vous pouvez imaginer un seul fois qu'il peut devenir votre chef? Soyons honnêtes. Est-ce que vous pouvez imaginer une seule fois que la bonne dame qui prépare pour vous le foufou peut devenir la femme du président? Mais c'est ça être chrétien. Croire à des choses qui humainement sont impossibles, impensables. Un homme qu'on envoyait nettoyer, repasser les habits si le fer existait, aller au grenier, aller nourrir les animaux. Aïe, 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 c'est cet homme-là que Dieu a choisi. Le message de Joseph est un message qui nous rappelle à l'humilité. Je disais donc, Dieu peut vous donner des rêves qui ne ressemblent pas à votre vie et ne laissez personne marcher sur vos rêves. Ne laissez personne piétiner votre rêve. Ne laissez personne diminuer vos rêves. Ne laissez personne, que ce soit frère, sœur, parent, mari, femme, marcher sur votre rêve. Et surtout dans le mariage, j'ai vu de plus en plus, il y a des hommes qui, quand ils épousent la femme, ils croient que la femme n'a pas de rêve. J'aimerais dire et crier fort pendant que j'en ai l'occasion que le mariage n'est pas le cimetière des rêves de la femme. Le mariage n'est pas le cimetière de la vision que Dieu a donnée à la femme. Lorsque la femme était née, lorsqu'elle grandissait, lorsqu'elle était célibataire, elle avait un rêve, elle avait une vision, et elle vient dans le mariage pour l'accomplir avec son mari. C'est ça le message de la Bible. Alléluia. Alors ne laissez personne massacrer votre rêve. Ne laissez personne sous-estimer votre rêve. Et pire, ne laissez personne enlever votre rêve et pour vous faire vivre son rêve. Parce que lui, il avait toujours voulu faire médecine et qu'il n'en a pas eu l'occasion. Il va tout faire pour faire la pression à ses enfants pour dire non. Moi, je veux qu'il y ait un médecin dans cette maison. Mais papa, quand toi tu étudiais, tu n'avais pas pu faire ça. Pourquoi moi je dois être ce que tu veux? Pourquoi moi je dois vivre ma vie en fonction de ce que toi tu as raté? Moi je veux seulement que tu épouses un ingénieur. Parce que la maman dans sa jeunesse avait raté l'occasion d'un ingénieur. Et vous voyez des gens donc qui sont en train de transposer leurs propres rêves sous les vies des autres. Et ils vous font porter un fardeau qui n'est pas le vôtre. Si vous êtes là, je vous encourage à démissionner de ce fardeau-là. C'est pas le vôtre. Chacun a son rêve qu'il reçoit et qu'il reçoit de Dieu. Alléluia. Et il faut laisser chacun vivre son rêve, vivre pleinement les rêves de Dieu. Que rien n'empêche, que personne ne vous empêche et trouver tous les moyens pacifiques pour réclamer que vous puissiez vivre votre rêve. Alors que Joseph est en prison. Je suis très sûr qu'il pouvait se poser des questions profondes et c'était mon introduction. Où sont ces rêves que j'avais? Il est vendu à 17 ans. Il se pose certainement la question. est-ce que les choses que je voyais là, c'était Dieu, c'était pas Dieu? Est-ce que je n'étais pas trop courageux? Peut-être j'avais été très audacieux. Il arrive des moments pareils où vous êtes à l'opposé de la direction de vos rêves. La direction du plan de Dieu pour votre vie. Lorsque Dieu vous promet quelque chose qui est au-delà de votre portée, il faut seulement s'accrocher à sa parole pour rester. Alléluia. Pour rester aligné, il n'y a que la parole de Dieu. Et nous voyons ça dans la vie de Marie. Dans Luc 2, verset 19, j'aime beaucoup. Lorsque l'ange vient dire un des versets que je considère toujours les plus terrifiants, la Vierge sera enceinte. Vous savez, nous lisons ça, mais ce verset-là est trop fort. Il dit quelque chose qui est humainement impossible. Une Vierge n'est jamais enceinte. La Vierge sera enceinte. Mais quand on promet à une Vierge qu'elle sera enceinte, et sans connaître d'homme, écoutez le verset 19, la Bible a dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Si vous voulez m'aider à dire à votre voisin, repassez dans son cœur. De temps à autre, elle se souvenait de ça. Elle repassait ça dans son cœur. Un jour, l'ange de Dieu m'a visité. Il m'a dit que je serai la mère du Messie. Elle repassait. Il y a des moments où vous allez être troublé au point de pouvoir douter même que ce que Dieu vous a promis pourrait arriver. Je vous propose cette première solution-là. Repassez la parole de Dieu dans votre cœur. Alléluia. Deuxième chose, c'est Romains 15, verset 4. Lorsque les rêves, vous commencez à vous éloigner de votre rêve, les rêves ne semblent pas correspondre à ce que vous vivez. La Bible dit dans Romains 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, soulignez bien ces deux mots, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Amen. Les Écritures, la parole de Dieu, nous rend patients et nous console. C'est pourquoi nous venons à l'église. C'est pourquoi nous lisons la Bible. C'est pourquoi nous avons une vie personnelle dans la méditation de la parole de Dieu. Le but, c'est cela. La parole de Dieu va nous rendre patients. Va nous empêcher de désespérer. Va nous empêcher de promener nos pensées partout. Parce qu'il y a des moments sérieux. Vous regardez dans le miroir. Vous dites, Seigneur, est-ce que ça arrivera? Mais le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Ce psaume l'a dit, parlant de ses bontés le jour et de sa fidélité la nuit. Le jour, c'est quand tout va bien. Le jour, c'est quand vous pouvez tout voir. Il y a des moments où, pendant la journée, on crie la bonté de Dieu. Mais la Bible dit que la nuit, quand la nuit est sombre, là, souviens-toi de sa fidélité. Parlant de sa fidélité, celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Je sais qu'il le fera. Je sais qu'il l'accomplira. J'aimerais donc encourager quelqu'un ce matin qui a des rêves qui commencent à s'éloigner de lui, dont la réalisation tarde, à pratiquer ce que Marie faisait, repasser les paroles de Dieu et profiter de l'encouragement, de la consolation ainsi que de la patience que donnent les Écritures. Deuxièmement, j'aimerais parler sur le brisement de Joseph. Parce que quelque chose va se passer dans ce héros de Dieu. Ce héros qui a des rêves, ce héros qui a un rêve. Dieu l'appelle à la grandeur, mais il ne sait pas comment ça commencera, par où ça viendra. Dieu a la particularité, à chaque fois qu'il veut se servir de quelqu'un, il va le faire passer par un chemin de brisement. Nous l'avons vu pratiquement chez tous les patriarches. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il va le briser. Le but du brisement, c'est pour que lorsque vous serez élevé, votre cœur ait été préparé. Si vous voyez quelqu'un qui devient grand et qui agit de manière brutale, qui agit avec un mauvais cœur, c'est quelqu'un qui n'est pas passé par le brisement. Parce que le but de Dieu dans le brisement, c'est de nous éduquer. Quand la grandeur va nous rencontrer, nous aurons un cœur qui est déjà préparé. Nous connaissons les chemins par lesquels nous sommes passés et nous serons humbles. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un qui passe par un temps de brisement pour lui dire courage. Joseph a une grande promesse, mais il est vendu comme esclave. Il est vendu, il va chez les Madianites et les Madianites le vendent chez Potiphar qui est le gardien de, on va dire, il est le responsable de la garde du pharaon. Une grande autorité du pays. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'il arrive dans cette maison, il se distingue. La Bible dit que tout ce qu'on lui confiait excellait entre ses mains, au point que son chef le nomma responsable de tous ses biens. Il s'occupa plus de rien. Il laissa toute la gestion de sa maison à Joseph. Mais la Bible dit qu'un jour, une fois de plus, le rêve, une femme rêve d'avoir Joseph dans son lit. Elle courtise Joseph de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Joseph fuit. Mais il arrive un moment où Joseph s'enfuit, mais malheureusement la dame va créer, monter tout un complot contre Joseph. J'aimerais dire en passant que ceux-là qui dirigent, ceux-là qui sont les employeurs, ne devaient pas considérer les employés comme des choses, comme des biens qu'ils pouvaient, dont ils pouvaient profiter comme ils le voudraient. C'est aussi ça le message de Joseph. Un monde injuste dans lequel nous sommes aujourd'hui, où ceux qui sont élevés en position, ils vont vouloir manipuler ceux qui sont en bas. Pour ce cas, c'était pour des plaisirs charnels. Pour d'autres, ils les sacrifient comme des pièces dans une partie de dame. Ils se foutent de savoir si son parent, si son mère, si son père, s'ils ont des enfants. C'est le cadet de leurs soucis. Que Dieu nous donne de ne pas avoir ce genre de cœur. Amen. La femme de Potiphar va créer, monter toute une scène contre Joseph. Joseph se voit donc accusé d'avoir voulu abuser de la femme de son patron. Joseph est jeté en prison. Et il est jeté en prison, pas n'importe quelle prison, la prison où vont les hommes politiques, les hommes élevés, les gens les plus proches du pouvoir. C'est pourquoi je disais, il fallait laisser Joseph tranquille. Ces choses devaient lui arriver. C'est ça le brisement de Joseph qui commence. Il est emprisonné. Il était vendu. Il travaillait dans une maison, une belle maison, un palais, probablement, parce que les pharaons, à l'époque, vivaient dans des harems. Donc, il était quand même dans des bonnes conditions. Parce que vous savez, quand vous êtes le domestique du président, entre nous, vous passez pour un boss dans le quartier. Vous allez faire cuire des œufs, mais c'est pour le président. Vous allez chauffer de l'eau pour le thé du président. Les gens vous respectent. Parce que lorsque vous travaillez dans le palais, vous êtes grand. Mais ce rêve-là s'étiole à nouveau. Le voilà en prison. Et Joseph se pose la question. Mon Dieu, je commençais à penser que je me rapprochais de mon but. Mais une fois de plus, le tableau est à zéro. Joseph est en prison. Mais Dieu, comme il sait bien faire les choses, le rêve va encore intervenir. Deux travailleurs du pharaon vont commettre une bêtise et puis on va les envoyer en prison. Et lorsqu'ils sont en prison, ils font le même jour, chacun un rêve. Ils n'en connaissent pas l'explication, mais comme ils ont un collègue prisonnier du nom de Joseph, Joseph leur dit, mais Dieu, vous savez, Dieu peut toujours tout vous expliquer. Partagez-moi un peu. Quand il partage, Joseph se met à prophétiser. Il explique, non, ça signifie que toi, dans 3 jours, tu sortiras. Et toi, ça signifie que tu seras condamné. Et les choses vont se passer telles quelles. À la fin de cette histoire, quand vous lisez, vous sentez Joseph supplier les chansons qui est libérée. Il dit, écoute, quand tu vas aller chez les pharaons, parle-lui de moi. Dis-lui que je suis un esclave hébreu. Je suis un innocent. Et ma Bible dit que les chansons l'oublia. Quel brisement. Je suis enfant de Dieu. Je donne ma dîme. Qu'est-ce que je ne fais pas, Seigneur? Pourquoi des choses pareilles m'arrivent? Il y a des gens qui sont oubliés. Il y a des gens dont les noms ne sont pas repris ici ou là. Vous aviez tellement attendu telle chose, mais ça n'a pas marché. Mon frère, ma soeur, c'est le chemin du brisement. Et je n'aimerais pas que quelqu'un vienne interrompre votre brisement. Laissez Dieu faire le travail qu'il fait. Lorsque Joseph veut être vendu par ses frères, si vous lisez bien le texte, la Bible dit déjà à ce moment-là, son frère aîné, Ruben, s'était proposé de vouloir le délivrer. La Bible dit même qu'il créait une sorte de subterfuge juste pour que ses frères soient distraits et il allait trouver un moyen de le faire échapper. Mais ce qu'il ne savait pas, qu'il risquerait de le faire échapper de la volonté de Dieu pour lui. Joseph, aimé de Ruben, va trouver grâce par Judas. C'est Judas qui va venir dire, bon, vendons-le. C'est Judas qui va le mettre sur le chemin de sa destinée. J'aimerais encore ajouter un des grands brisements de Joseph, parce que Joseph n'est pas l'enfant de n'importe qui, c'est quand même l'enfant de Jacob. C'est l'homme qui a reçu des grandes promesses de Dieu. C'est l'homme qui nous a laissé le mot Shiloh, le seul mot, la seule fois où ce mot est mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse 49, au verset 10, et il est la seule personne à employer ce mot. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il prophétise sur le Messie, sur Jésus. Il est capable de voir des choses qui arriveraient plusieurs siècles après, mais il est incapable de voir que son fils n'est pas mort. Dieu a même caché à Jacob que son fils était mort. Jacob a organisé le deuil. Il a pleuré. Quand il pleurait, Dieu regardait. Vous savez, Dieu n'a pas des sentiments, c'est ma conviction personnelle. Dieu ne fait pas le choix par sentiment. À ce moment-là, si c'est moi, c'était Dieu, il a dit, ah non, ah, il pleure comme ça, je lui dis, c'est ma par un rêve là, rapidement. Ou bien je lui apparais la nuit. Non, Dieu avait des calculs très forts. C'est pour ça que vous savez, vous entrez dans des problèmes dans la vie, vous comprenez pas comment les choses de... Mon frère, ma soeur, soyez calme. Dieu est en train de faire un travail pour vous. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin, lui dire que personne ne vienne interrompre le processus de votre brisement. Amen. Même si tu ne veux pas dire amen, j'aimerais le dire autrement. J'éloigne des rubans. Des Rubens, des gens qui veulent t'aider, mais ils ne savent pas qu'en t'aidant, ils vont t'éloigner de ta destinée. Dieu est en train de te briser. Dieu est en train de te briser parce que Dieu n'utilise que ce qui est brisé. Lorsque Jésus veut multiplier les pains, il va briser les pains. La Bible dit, il pria son Dieu, il rendit grâce et il rompit les pains, ensuite il les multiplia. Si tu es sur le chemin du brisement, tu es certainement sur le chemin de ta multiplication. Arrête de te plaindre, arrête de pleurer, arrête de dire que Dieu t'a abandonné. Comprends tout simplement, Seigneur, le chemin par lequel tu me fais passer, c'est pour me multiplier. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, Dieu est en train de te multiplier. Dieu est en train de te multiplier. Il va pas te détruire. Dieu ne cherche pas à te détruire. Et que les Rubens s'éloignent de ta vie. Que les gens qui vont faire des interventions pour toi, qu'ils partent, qu'ils s'éloignent. C'est dur de les dire comme ça, mais je sais ce que je te dis. Lorsque Dieu est en train de tailler une pierre, la pierre a mal. Mais la pierre ne sait pas qu'on est en train de faire d'elle une pierre précieuse. Les coups de marteau, je dis, mais qu'est-ce que ce monsieur me veut? Demain, les gens vont te discuter à grand prix. Mais ils ne sauront jamais que Dieu t'avait emmené sur un terrain de brisement. Ne gaspille pas tes souffrances. Ne gaspille pas ton brisement. Ne gaspille pas la prison où tu es. C'est le chemin de Dieu. Dieu est en train de faire un travail dans ton cœur. Comme ça, quand tu seras grand, tu auras un cœur humble. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans une position de grandeur, ils sont injustes. Ils oublient qu'ils sont là pour aider les autres. Mais Dieu prépare Joseph. Dieu le prépare. Et Dieu ne laisse personne intervenir. Seigneur, merci. Merci d'éloigner des rubans, des gens qui vont nous faire éloigner. Merci de continuer à nous garder encore dans la prison pendant un moment. Merci même de faire que les chansons nous oublient. Je pensais que tu dirais amen. Un jour, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit, heureusement que ce garçon-là m'avait lâché. J'avais beaucoup pleuré. J'avais beaucoup pleuré le jour où il a dit non à notre relation. Je me disais que je n'allais plus vivre. Mais aujourd'hui, j'ai béni. J'ai dit, ah, Seigneur, merci. Merci. Merci comme il m'avait dit non. Ah, merci. Si c'était lui. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas savoir, mais il y a quelqu'un qui est maître des destinées. C'est Dieu. Dieu voit tout. Dieu voit comment les choses sont et Dieu voit comment les choses seront. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait. Quatrièmement, j'aimerais insister sur le fait que Joseph est resté intègre. Joseph est resté intègre. Le héros de Dieu était un homme brisé, mais dans le brisement, il est resté intègre. Correct. Parce que souvent, lorsque nous passons par des temps difficiles, nous trouvons une façon de justifier certaines mauvaises choses. Par exemple, on se dit, on me paye mal dans cette entreprise, eh bien, je peux voler. Parce qu'il me traite mal dans cette maison, voilà, je peux commencer à faire deux ou trois choses pour me venger. Mais quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous voyez un homme qui est resté intègre. Dans la souffrance, mais intègre. Il y en a qui volent les millions, ils roulent carrosse, mais je continue ma vie intègre. J'ai des promesses qui ne se sont pas encore accomplies, mais je ne vais pas tricher. Combien de tricheurs n'avons-nous pas dans l'église et combien de faux témoignages n'avons-nous pas? Combien de personnes ne viennent-elles pas témoigner faussement? Ce n'est pas Dieu qui a agi. Il y a des gens qui ont triché dans leur propre destinée et ils ont l'audace de dire, Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. Tu as pris ce qui est à autrui. Tu as pris ce qui n'est pas à toi. Et tu as l'audace de venir témoigner. Très jeune, j'étais surpris par cette histoire. Dans une de nos cellules, un jour, pendant les moments de témoignage, un frère surgit et dit, j'aimerais témoigner la grandeur de Dieu depuis la gare centrale jusqu'ici à l'IPEN. Je ne faisais que prier mon Dieu. Bon, c'est dit, il priait pourquoi? C'est encore à l'époque de la Deuxième République, il disait, les contrôleurs de transport ne sont pas entrés. C'est pourquoi j'ai dit merci à mon Dieu qui les a pas mis. J'ai dit, quel témoignage honteux! D'un frère qui entre frauduleusement dans le transport public et qui a l'audace de dire que Dieu a éloigné les contrôleurs. C'est pas possible. Mais ça nous fait rire. Mais combien de nos témoignages parfois ne ressemblent pas à ce monsieur? Nous avons triché. Nous avons pris les biens des autres. Nous avons pris dans le salaire des autres. Nous avons construit une maison avec. Nous avons fait voyager nos enfants et nous envoyons même l'argent qui devait revenir aux autres, à nos enfants, régulièrement à nos membres de famille. Et nous osons même donner la dîme. Mon frère, Dieu n'a rien à faire avec de l'argent gagné malhonnêtement. Il ne faut pas penser que Dieu, c'est un pauvre. Loin de là. Et certains même disent, si je donne à l'église, comme ça va purifier. Non! Répondez-vous, demandez pardon à Dieu et allez rendre les biens. C'est ça le message du Nouveau Testament. Allez rendre ce qui est à autrui. Vous avez affamé des orphelins. Vous avez précipité même la mort de certaines personnes. Être dans une position d'autorité ne nous donne pas le droit de tout faire. Et être aussi en train de souffrir ne nous donne pas le droit de tout faire. Et c'est ça la leçon que Joseph nous donne. Un homme intègre
même dans la souffrance. Ok, on ne me donne pas ce que je veux, ok, mais ça va, je ne vais pas non plus voler. Je veux me contenter de ce qui est à moi. Alléluia. Cinquièmement, lorsque la saison de sa gloire arrive, lorsque Dieu décide enfin que l'épisode de sa vie passe à une autre saison, c'est comme dans un rêve. Le pharaon, une fois de plus, le rêve intervient, fait deux rêves. Et il n'y a personne pour interpréter. Dans tout le royaume, on appelle les magiciens, les hommes sages, tout le monde. Personne n'arrive à interpréter le rêve. Ainsi, Dieu fait que l'homme qui était parti de la prison, les chansons qu'il avait oubliées, la Bible dit, c'est à ce moment-là qu'il se souvient. Ah! Il y avait un jeune homme, Joseph. Il dit, sire, je connais un jeune homme en prison. Au fait, c'est lui qui nous avait même expliqué, tu vois, à l'époque quand tu nous as fait sortir de la prison, oui. Et il donne même la raison, il dit, au fait, c'est un mauvais témoignage contre ma vie, je n'aime pas souvent en parler. C'est ça, en fait, sa raison. Il disait, c'est très gênant d'aborder ce sujet, parce que c'est quand même le roi qui nous avait mis en prison. Alors le roi dit, faites-moi venir ce Joseph. Joseph revient. Il se rase, il se lave, il se tient devant le pharaon. Le pharaon parle et Joseph se met avec une telle plénitude, il commence à expliquer. Les sept vaches sont sept années d'abondance. Oh, le pharaon se dit, mais ce jeune homme vient d'où? Oh. Ah, Dieu est bon. Vous savez, dans une même journée, il était prisonnier. Dans une même journée, il était devenu le vice-roi d'Égypte. Dans une même journée, je répète, dans une même journée, Dieu peut faire que dans une même journée, la situation de votre vie change. Je dis, dans une même journée. Une même journée. Vous êtes venu à l'église comme vous êtes venu là. Et à 14h, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Alléluia. Dieu peut changer votre vie. Alléluia. Ah, je me souviens, l'époque du président Mobutu, nous grandissions avec quelques amis et puis un jour, on allait jouer chez eux comme on voulait, mais puis un jour, un communiqué passait à la télé, leurs parents, papa était devenu le directeur du cabinet du président. Mais nous, étant enfants, on ne comprenait rien, on est venu jouer. Comme d'habitude, on n'est pas entré. On est venu comme d'habitude. On a dit, oh, ici on n'entre plus comme ça, c'est fini. Dans une journée, je t'ai dit, mon frère, dans une journée, celui que tu saluais comme ça, là, tu vas commencer à faire la lettre, hein, et puis on t'a accusé de réception. Après, on t'a dit, oui, il vous attend. Dans une journée, lorsque Dieu visite quelqu'un, c'est comme si vous étiez dans un rêve. C'est comme si vous étiez en train de rêver. Oh, je prie que Dieu te visite, au point que toi-même tu dis, Seigneur, réveillez-moi. Est-ce que c'est vraiment ma vie? Est-ce que c'est vraiment moi? Dieu peut changer ta situation. Même si tu es allé à l'opposé, même si tu es allé à 180 degrés de la direction de tes promesses, j'aimerais ce matin rappeler et répéter ces choses. Mon frère, ma sœur, ne désespère pas. Ne désespère pas. Reste intègre. Accroche-toi à la parole de Dieu qui va créer de la patience, entretenir la consolation dans ton cœur et compte sur la fidélité de Dieu. J'aimerais que nous puissions couvrir nos têtes et prier. Alors que nous avons les têtes courbées, j'aimerais que chacun de nous réfléchisse quelques secondes. Qu'est-ce que les temps d'épreuve a fait de vous? Les situations ou la situation par laquelle vous passez vous a-t-elle rendu injuste? Ou bien vous êtes toujours intègre? Avez-vous perdu la foi? Vous vivez aussi maintenant dans le péché? Vous avez arrêté de craindre Dieu? Vous trouvez une justification parce que la réalisation de vos promesses serait en train de tarder? Faites-vous toujours confiance à Dieu.
J'aimerais que nous puissions nous lever ensemble, tous ensemble ce matin, et prier. J'aimerais pas faire un appel particulier, mais j'aimerais qu'alors que nous serons en train de prier, chacun d'entre nous parle à Dieu. Parce que vous savez, si vous vous êtes éloigné de Dieu, demandez-lui pardon. Si ce matin vous ressentez que vous êtes loin de Dieu, parce que les promesses sont tellement traînées, toutes les choses qui ont été dites, vous n'y croyez plus, vous avez même perdu la foi. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ensemble? Parlons à Dieu. Prie pour ta foi. Prie pour que Dieu restaure ta foi. Demande à Dieu et engage toi-même ce matin. Dis, Seigneur, j'aimerais repasser ta parole dans mon cœur. J'aimerais que chaque jour je reprenne à me pencher sous ta parole pour recevoir la patience. J'aimerais que ta parole me rende patient. Que ta parole me rende patiente. Je suis allé sur une mauvaise direction. Seigneur, j'ai tellement souffert que j'ai pris la décision d'aller avec le mari de quelqu'un d'autre. Ça a tellement traîné que je suis allé dehors. Seigneur, ça a tellement traîné, mais ce matin, je me repens. Je n'ai pas eu ce que je cherchais, j'ai perdu la vision. Restaure, 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 restaure les vies. Restaure mon cœur, restaure ma vie. Restaure mon intimité avec toi. Et donne-moi d'accepter le brisement par lequel tu me fais passer. Je crois que la multiplication est en route pour ma vie. Seigneur, je crois que la multiplication est pour bientôt. Je suis le pain que tu es en train de rompre. Je suis ce morceau de pain que tu es en train de couper en deux. Mais je suis content parce que je sais que les mains qui me tiennent ne cherchent pas à me détruire. Ces mains cherchent à me multiplier. Et je te fais confiance. Je te fais confiance. Parlons de ses bontés les jours et de sa fidélité la nuit. Sa fidélité la nuit. Sa fidélité la nuit. Même dans cette nuit que tu traverses, j'aimerais que tu commences à confesser qu'il est fidèle. Pendant un moment, dis-lui merci. Seigneur, je ne sais pas où je vais. Je ne comprends pas comment ça se finira. Mais ce matin, Seigneur, j'ai à cœur de te dire, je te fais confiance. Seigneur, j'aimerais te dire que je te fais confiance. J'aimerais crier que tu es fidèle. Je ne connais pas la route, mais celui qui me tient la main connaît la route. Je ne connais pas le chemin. Je ne connais pas l'issue de cette histoire, mais celui qui me tient la main... La main connaît. Éternel, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je chanterai ta fidélité et ma main. Je chanterai. Je chanterai
ta fidélité, Emmanuel.
Je chanterai
ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel.